Bonjour messieurs, comment vous avez reçu la nouvelle? Est-ce que vous y attendiez?
Non, c'est une surprise parce que il y a des organisations, hein, de la société civile, des ONG internationales qui travaillent depuis plus de 2 ans pour assurer une sorte de traçabilité des ressources minières en vue de séparer les minerais qui proviennent de sites contrôlés par des groupes armés, des minerais propres des sites qui sont contrôlés par le gouvernement congolais avec les communautés locales. Et là, la surprise est que quand on s'imagine les conséquences dramatiques que cela peut poser, l'artisanat minier a pris les dessus dans l'économie de la province du Sud Kivu depuis 10-15 ans. Quand il y a eu cessation des activités agricoles dans l'économie du Sud Kivu, c'est l'artisanat minier qui a soutenu pratiquement toute l'activité économique du Sud Kivu. Quand on doit suspendre cela, c'est toute la machine, hein, du fonctionnement de la province qui est arrêtée. Mais au-delà de tout ça, il y a des communautés. Je vais te donner un exemple. À Nyabibu, par exemple, une maman peut payer ne paye sa maternité que par la cachetérite. Ce sont des artisans miniers, des gens qui ne connaissent rien des mouvements armés, rien des groupes armés, et qui vivent de ces minerais. Il y a aussi le problème de... Vous savez que les routes étaient délabrées. Il y a toutes les compagnies d'aviation qui approvisionnent des cités qui sont éloignées du centre-ville. Il y a les compagnies aériennes qui approvisionnent Lulingu, qui approvisionnent Shabunda, qui approvisionnent Kindu, qui approvisionnent Namoe en produits de première nécessité. Et donc,
au retour,
ils ramenaient effectivement les produits des artisanats miniers, et cela faisait à ce que leur activité était beaucoup plus lucrative et rentable. Mais dès qu'il n'y a pas d'artisanat minier, c'est-à-dire qu'ils vont cesser d'approvisionner ces communautés, et c'est ces communautés qui vont encore souffrir de cette carence. Et nous pensons effectivement que c'est une mesure transitoire, mais on ne dit pas à quand, mais les conséquences vont être visibles à la minute même. Donc c'est des choses qu'on ne doit pas attendre, mais il faudrait vraiment que le gouvernement tienne compte du travail que font les ONG locales et internationales en vue d'assurer cette traçabilité. Il faudrait maintenant privilégier la logique du dialogue, là où le gouvernement revient pour dire qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a des propositions qui sont sur table et le gouvernement en sait grand chose. Chaque activité que nous organisons, le ministre national est au courant, le ministre provincial des mines est au courant. Pourquoi il doit prendre déjà ce genre de mesures qui ne vont que sacrifier la communauté congolaise?
Les minéraux sont qualifiés de la guerre. Ce sont d'abord les groupes armés étrangers et nationaux qui sont visés parce qu'ils sont autour de cette exploitation. Est-ce que vous pensez que ça va diminuer tant soit peu la force économique de ces groupes armés?
Bon, merci. La situation a totalement changé. Ce n'est plus le minerai qui tient l'activité des groupes armés. Parce que les groupes armés sont presque affaiblis. Je vois les FDLR qui vivent des mines, mais les FDLR sont chassés des carrés miniers par l'opération Kimia 2 aujourd'hui à Manileo. Donc on ne peut pas brandir cet argument-là pour dire voilà, on vise à affaiblir les groupes armés. Donc il faut voir les intérêts de la communauté congolaise qui vit autour des carrés miniers. Parce que les groupes armés, pour la plupart, sont intégrés, et d'autres réfractaires à l'intégration sont isolés des sites miniers. Et donc ce n'est pas un argument qui tient, parce que nous sommes en permanence dans les carrés miniers, dans les sites miniers, pour faire un monitoring permanent pour voir comment ça se passe. Mais il faut avouer que les groupes armés sont suffisamment affaiblis à 90% et sont isolés des sites miniers.
Mmh. Est-ce qu'il n'y a pas à craindre que cette mesure puisse encore davantage forcer le circuit de la fraude?
Effectivement, parce que tous les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, ne frappent que les minéraux de l'Est du Congo. Mais ces rapports-là blanchissent les minéraux qui sont les minéraux qui proviennent des pays voisins. Or, on sait bien que ce n'est pas des quantités suffisantes que ces pays voisins produisent. Et donc, en d'autres termes, si on frappe les minéraux du Congo, si on frappe l'exploitation artisanale, on favorise effectivement la fraude, mais on favorise la contrebande au niveau des frontières, parce que c'est une matière qui est trop recherchée par les pays voisins pour l'exportation. Et donc, il n'y a pas à tergiverser, c'est la fraude qu'on veut favoriser, et ce n'est pas le Congo qui en gagne, qui en tire bénéfice, mais c'est plutôt les pays voisins qui vont encore tirer le profit, parce que leurs minéraux sont blanchis. Ils ne sont pas visés par tous les rapports du secteur des Nations Unies et toutes les mesures qu'on est en train de prendre autour des minéraux de l'Est du Congo.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Radio Okapi.